temps qu'il y a des pages.
Des mots.
Ou pas.
Et puis tant que ça se lit.
Même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à la tête en bas.
La tête en bas.
Et si ça se lit aux toilettes aussi.
Ouais, aussi.
Ben c'est la déclinaison. Un mardi sur deux.
Bonsoir à tous et bienvenue. Vous venez d'entrer à la bouquinerie, le sombre et dangereux repère des bouquineux de Radio Campus Paris. À la bouquinerie, on discute toujours de bouquins chouettes et cette semaine, il y a un gros festival de bouquins chouettes. C'est le 42e festival de la bande dessinée à Angoulême qui commence dans deux jours. Alors pour l'occasion, aujourd'hui, on a voulu s'intéresser tout particulièrement à la BD. Nous recevrons dans un premier temps Enora, salut.
Salut.
Qui viendra nous parler d'une exposition et de la bande dessinée qui en est à l'origine. C'est Revoir Paris de François Schouten et Benoît Peters. L'exposition se déroule actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. À 20h25, nous recevrons Philippe Vadelette, auteur de la web bande dessinée Georges Clounet, qui est désormais édité aux éditions Tapas et Delcourt en deux gros tomes très chouettes et pleins de surprises. Bonsoir Philippe Vadelette.
Bonsoir.
Les chroniqueurs de la bouquinerie sont toujours au rendez-vous avec nous, ou presque. Salut Simon.
Bonsoir Anna.
Qu'est-ce que tu nous racontes pour ta chronique adaptation ce soir?
Eh bien, festival d'Angoulême oblige, on va encore parler d'adaptation de BD, mais cette fois-ci pas de BD au cinéma, mais de romans en BD, et ça sera le cycle d'Elric de Michael Moorcock, et pas le Moorcock comme on a tendance à dire.
Et ça se passe à 20h20. Vous retrouverez la chronique de Martin, Enlevez vos chaussures, à 20h40 en fin d'émission. Et Yacine, lui, est pas là ce soir parce qu'il joue au Grand Reporter à Angoulême. Parce que c'est un garçon très ponctuel, oui, il a deux jours d'avance. Et on lui passera un petit coup de fil de santé avant de se quitter à 20h50. Voilà le programme, à tout de suite.
Bouquinerie,
bouquiné,
bouquinaire, bouquinale,
bouquinaire, bouquinal, bouquineux. Bouquineuse, bouquinarial, bouquinairement, bouquinant, bouquin,
Depuis 1982, le dessinateur François Schouten et son ami d'enfance, l'écrivain scénariste Benoît Peters, collaborent à la longue série des Cités Obscures, dont on compte aujourd'hui 12 albums. François Schouten obtiendra même le Grand Prix d'Angoulême en 2002. Le duo créatif est décidément inspiré par le thème de la ville, publie en novembre 2014, il y a à peine quelques mois, le premier tome de Revoir Paris. Et quelques jours plus tard, c'est l'exposition du même nom qui ouvre ses portes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Enora, c'est toi qui nous fais découvrir cette BD aujourd'hui.
Oui, bah du coup, moi j'étais intéressée par Paris, puisque je suis parisienne, par la BD aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui me passionne. Et puis par le lien en fait entre la BD, une exposition et une production de catalogue d'exposition qui ressemble d'ailleurs pas mal à un format de BD. Donc voilà, moi ce qui m'a intéressée dans cette expo, je sais pas par où commencer, mais il y a plein de choses à dire.
Bah, je peux peut-être dans un premier temps te demander de nous présenter le bouquin comme ça et ensuite on parlera de l'expo.
Voilà, donc en fait c'est une nouvelle BD de ces deux auteurs qui ont quand même fait pas mal d'autres albums, notamment les Cités Obscures, donc 8 BD, donc 15 albums en tout, il y a 8 BD et puis le reste c'est du guide de voyage, des récits. Et puis là, donc en 2014, il y a cet album, donc Revoir Paris, qui est sorti, avec un personnage principal qui s'appelle Karine, qui est une nana qui est donc née dans ce qu'on appelle l'Arche.
Un gros vaisseau spatial.
Voilà, un gros vaisseau spatial, une colonie spatiale, comme disent les auteurs, qui a fait en sorte d'exiler pas mal de personnes hors de la Terre. Et là, en fait, dès le début du bouquin, on comprend que Karine va retourner sur la Terre avec d'autres personnes en hibernation pour redécouvrir Paris. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a deux alibis pour les auteurs de traiter de Paris. Le premier, c'est le Paris rêvé, l'actrice principale, donc la protagoniste, imagine quand elle prend des
L'utopie
psychotropes.
Aussi, voilà. Donc on en parlera plus tard.
Exactement. Et le deuxième alibi, c'est l'arrivée sur le Paris en 2156, si je me gourre pas. Ouais, c'est
22e
ça.
22e siècle.
Voilà.
On va faire large.
Et du coup, la redécouverte d'un Paris inventé, futuriste. Voilà. Donc deux manières de voir Paris et deux possibilités pour les auteurs de s'éclater.
Ça, c'est donc pour la bande dessinée. Et sinon, l'exposition Revoir Paris, c'est en ce moment. Et on parcourt la salle, on y rencontre Paris, ses évolutions, de l'époque pré-haussmannienne jusqu'au Paris de demain. Un Paris sphérique, une ville-monde qu'on découvre sur planches de bande dessinée comme sur des écrans interactifs avec le Paris 3D Saga. On y voit tout ce qui a été fait, mais aussi tout ce à quoi on a échappé à Paris, comme une fontaine éléphant pseudo-indienne en plein milieu de la place de la Bastille, je crois. Ouais. Donc l'exposition mêle les projets architecturaux d'antan à l'imagination et le projet de bande dessinée de Schouten et Peters. Alors, est-ce que la question qui anime, qui motive l'exposition, c'est simplement à quoi ressemblera Paris ?
Bah, y a plein d'autres choses dans cette expo. Donc, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la mise en miroir des travaux donc, de ces auteurs et des archives en fait, qu'ils ont pu utiliser pour créer les Paris qu'ils dessinent. En fait. Donc l'idée, c'est que pour inventer une ville, il faut de l'imagination, mais il faut aussi des influences, un existant, une historiographie. Donc l'idée de l'expo, c'était de mettre en avant ce dialogue. Donc on a des planches de BD, comme tu l'as dit, et on a donc les cinq parties jusqu'à au Grand Paris, hein, les idées. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a plein de choses différentes qui ressortent de cette exposition. Effectivement, quand on en sort, pour aller plus loin, on se rend compte de cette notion d'utopie qui était déjà présente donc, dans les idées de Napoléon III et d'Haussmann, hein, puisqu'il a tout fait comme il voulait.
C'est le futur antérieur, en fait, qu'on voilà. voit. Voilà,
c'est ça qui est hyper intéressant.
Ça, les auteurs.
Et puis surtout, se poser la question de comment on gère la ville, comment on l'imagine, et puis comment on les réinvente. Est-ce qu'on peut se permettre de tout faire? Qu'est-ce qui reste à faire dans une ville? Comment le faire? Et jusqu'où on peut aller, hein? C'est la question aussi qui se pose aujourd'hui avec la tour Triangle. C'est à Vincennes, hein, c'est ça, je crois.
Versailles, je crois que c'est de Versailles.
Ouais.
Et quand on parle de cette modernité donc d'hier, comment est-ce que hier ils envisageaient la modernité? On pense à Paris, à ces monuments emblématiques qui doivent déjà cohabiter avec les aspirations de la métropole à la modernité. Mmh. Alors est-ce qu'à Paris, on peut dire que le futur et le passé, ils se confrontent? Ils se poussent ou il y a une harmonie?
C'est le gros problème de la conservation des monuments historiques aujourd'hui et justement de cette nouvelle architecture qui pousse au fur et à mesure. Le problème aussi des périphéries, à quel moment on s'arrête, à quel moment on déplace des populations, à quel moment on décide que Paris, c'est d'autres limites que celles qui existent maintenant, qui ont toujours existé aussi. Donc jusqu'où va la conservation de l'existant? Et c'est intéressant d'ailleurs dans la BD, quand Karine découvre la nouvelle Paris, elle se rend compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé et que y a des espèces de sphères, des zones sphériques où sont conservés les monuments les plus importants de Paris, en tout cas
on
qui sont emblématiques.
On a dû les extraire en voilà. fait. On
Donc
a dû les extraire.
Voilà, c'est une sorte de dépôt archéologique des monuments.
C'est ça. Et est-ce que toi, c'est les œuvres architecturales de demain que vont inventer les auteurs? Est-ce qu'il y en a quelques-unes auxquelles tu as été un peu particulièrement sensible, que tu as vraiment vu tenir leur place à Paris?
Oui, il y avait celle à la Défense. Alors, je l'ai notée là,
c'est des
au niveau du petit post-it.
C'est des espèces d'arbres métalliques à la Défense. Les immeubles ressemblent
ouais,
à des
là,
torches à des arbres.
C'était un bâtiment, je le retrouve. C'était un dessin de Émile Ayot. Immeuble miroir, tête Défense, vue perspective.
Oui, il est magnifique.
Voilà.
Ouais.
Et donc, c'est en fait un bâtiment qui aurait dû se trouver à la Défense et qui, à l'aide de miroirs, renverse complètement la vision qu'on a de Paris et qui, effectivement, aurait changé la vision de la Défense qu'on a à partir du centre de Paris. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper beau. Ouais.
Et au cours de l'expo Revoir Paris, on croise des expositions universelles, notamment celle de 1889, qui a vu naître la Tour Eiffel, celle de 1900, avec les premiers métros et la construction des petits et grands palais, entre autres. Et il y a quelques mois à peine, on annonçait officiellement la candidature de la France à l'expo universelle de 2025. Alors, est-ce que tu penses que François Schuiten et Benoît Peters devraient venir donner un coup de main pour cette expo 2025?
Bah là, de ce que j'en ai vu en tout cas, ouais, c'est quand même les mieux placés. Et puis c'est des ces deux artistes aussi qui ont beaucoup collaboré dans ce qui est tout Céno.
Ils ont fait des stations de métro aussi.
La station Arts et Métiers effectivement sur la ligne 11. C'est quand même des personnes qui sont au courant justement. Enfin, pour pouvoir créer, comme je disais, il faut quand même avoir un background historique, quoi. Donc savoir de quoi on parle sur la question de l'urbanisme. Après, on le voit dans l'expo aussi. À la fin de l'exposition, il y a pas mal d'interviews.
Oui.
D'architectes, d'historiens qui parlent justement de cette évolution de la ville. Et je pense qu'effectivement, un dialogue autour de l'intégration de nouveaux bâtiments dans le cadre de cette expo.
Parce qu'on peut se demander, au jour d'aujourd'hui, si ce ne serait pas plus cohérent pour répondre aux problématiques d'un pays en crise, de plutôt réinvestir les monuments et investir le Grand Paris, plutôt que de reconstruire encore et encore dans cette ville déjà hyper riche. Une exposition moderne, économe, écologique et respectueuse.
Bah, c'est ça, il y a aussi plein de tendances qui dépendent des époques auxquelles on appartient. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas, architecte.
Non, en tant qu'amatrice
mais en tant qu'amatrice, en tant que parisienne, en tout cas, qui ai toujours vécu ici, et aussi par rapport au travail que je fais... dans la conservation, moi c'est passionnant pour moi de vivre à côté de tous ces monuments qui existent dans Paris, et c'est clair que les voir détruits, moi ça me briserait le cœur. Donc l'idée pour moi ce serait d'intégrer effectivement cette histoire dans le nouveau.
Et est-ce que pour nous plonger dans l'univers de la BD, Revoir Paris, tu pourrais nous lire un petit extrait?
Ouais. Donc j'ai choisi un petit extrait. Effectivement, c'est une BD qui est pas mal parlée. Donc je vous lis une planche. C'est drôle ces histoires qu'on m'a répétées depuis que je suis toute petite. Je crois que je n'ai jamais cru, sans doute parce que je n'ai jamais vraiment appartenu à l'Arche, même si c'est le seul endroit que j'ai habité. Moi la bâtarde, l'orpheline, la bizarre, la dangereuse, la contagieuse. Moi qu'on a laissé grandir sous cloche pour ne pas faire courir de risques aux autres. Moi qui suis née de père inconnu mais terrien, ça ils en étaient sûrs. Moi qui n'ai survécu que par accident et que beaucoup auraient préféré voir mourir. Moi dont il ne fallait pas s'approcher, moi avec qui les autres enfants n'avaient pas le droit de jouer. J'étais inutile, pire, j'étais trop. On ne savait pas quoi faire de moi. Avec moi, l'Arche avait perdu son temps. Depuis que je sais lire, la Terre est ma seule vraie passion et Paris, le seul lieu qui me fait rêver. Ma mère y était allée et c'est là qu'elle avait rencontré mon père. Je ne sais pas grand-chose de plus, mais ça y est, tout est prêt. Me voici, Monsieur Robida. I want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais, that's for me. Bonjour Paris. I want to wander through the Saint-Honoré, do some window shopping in the Rue de la Paix, that's for me. Like Jean-Paul Sartre, I must philosophize with all the guys around Montmartre and Montparnasse. I'm strictly tourist, but I couldn't care less. When they parlez-vous me, then I gotta confess, that's for me. Bonjour Paris. Light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter, to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tourist. This has got to be illegal, what I feel. Très gay, très chic, très magnifique. C'est moi, c'est vous, c'est grand, c'est tout, tout. It's too good to be true. All the things we can do. You do things to my point of view.
We can show you the north. We can show you the south, and we can show you the west.
Come on and show me the best. That's for me. Bonjour Paris.
Bonjour. On écoutait à l'instant un morceau qu'Enora nous a ramené pour illustrer son intervention dans la bouquinerie. Qu'est-ce que c'était que ce morceau?
Bah, c'est un extrait C'est un extrait d'un film bon, des années 60, avec Audrey Hepburn notamment et Fred Astaire. J'aime bien parce que c'est de la comédie musicale, et puis surtout ça montre aussi la vision qu'on peut avoir quand on est à l'extérieur de Paris, notamment celle des Américains sur Paris, voilà, Montparnasse, Gavroche, La Baguette, tout ça, tout ça. J'hésitais avec les Flight of the Conchords, mais
celle-là je préfère choisir celle-ci. Ça nous sortait un petit peu de l'ambiance future aussi, voilà. Un peu trop futuriste parfois, cette ambiance future. Philippe Valette, vous connaissiez donc ces deux auteurs et vous
absolument,
les appréciez.
Ouais. Oui, complètement. Pour quelqu'un qui fait un peu de bande dessinée, j'en lis très peu. Et celle-ci, ouais, je les dévore depuis que je suis adolescent, depuis le lycée. Surtout La Tour et La Fièvre d'Urbicande, qui d'accord. sont vraiment géniales. J'adore ces univers fantastiques mélangés à l'architecture. C'est vraiment, vraiment magnifique.
C'est là qu'on se dit, et c'est un peu la trame de l'expo, que bande dessinée, architecture et utopie ont des liens depuis hyper, hyper longtemps. Et c'est ça, l'utopie, elle a aussi sa place dans l'imagination peut-être des auteurs, même d'ici le 22e siècle. Alors je ne sais pas trop ce que ce sera l'utopie des architectes au 22e siècle.
Ah bah, je pense qu'ils vont s'éclater. Hein. Il y a pas mal de choses à
quoi.
Faire. Ouais.
Bon, bah merci beaucoup, beaucoup, Enora, d'être venue nous faire redécouvrir Paris.
Avec
en tout cas,
plaisir.
C'est ce que je vous disais hors antenne. Moi, ça me donnait envie de partir en urbex. J'ai découvert ça hier soir et je trouve ça trop bien. C'est le fait d'aller visiter des lieux interdits. La définition, c'est découvrir les lieux d'un autre temps, voir le monde sous un autre angle, faire beaucoup de routes, jouer à cache-cache, parcourir le monde et ne pas attendre les journées du patrimoine. Ça a l'air très chouette.
Et donc aller à l'expo, c'est jusqu'au 9 mars,
ouais,
c'est encore le temps.
Oui, c'est ça. C'est alors la bande dessinée, parue aux éditions Casterman en novembre, elle coûte 15€. Et l'exposition Revoir Paris, dont la scénographie est assurée par ces mêmes auteurs, se déroule actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris jusqu'au 9 mars. Et l'entrée, elle est à 3€ pour vous, les étudiants. Alors foncez, tarif réduit, c'est trop cool. Il est 20h18 sur Radio Campus Paris et donc forcément, et bah comme il est presque 20h20, c'est l'heure de la chronique adaptation de Simon qui nous parle ce soir du cycle d'Elric de Michael Moorcock.
Exactement, alors ça va être une intro à la stand-up, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment dans le monde de la BD fleurit un courant d'adaptation littéraire qui à mon avis semble pallier à un certain manque d'originalité chez les auteurs, mais celle dont je vais vous parler ce soir en l'occurrence est une réussite, elle est éditée chez Glénat et loin de l'absurde dans lequel on va plonger tout à l'heure avec Georges Clounet, on va aller plutôt explorer la dimension fantasy, mais attention, une fantasy sombre et torturée, celle donc de Michael Moorcock, je me trompe pas, je dis pas Moorcock, oui, parce que je pense que énormément de gens font cette erreur, moi y compris. Il s'agit donc d'Elric, qui est une série de romans parus entre 1961 et 1972, dont le protagoniste principal n'est notre que le fameux Elric. Mais qui est donc cet Elric au sobriquet viking? Et ben rien de moins que le dernier empereur de Menibone. Je sens là, rien qu'à l'évocation de ce nom, que vous êtes tout en train de pisser dans votre pantalon.
Oui, j'ai peur, Simon, j'ai peur.
Menibone, qui est, comme vous le savez évidemment, l'empire le plus puissant des jeunes royaumes. Voilà, donc comme je sens que j'ai perdu tous les auditeurs et les membres du studio qui se sont arrêtés au pied poilu des Hobbits, on va faire une petite parenthèse.
C'est quoi Hobbit?
Hobbit, c'est pas un truc porno, je te rassure, mais c'est juste qu'ils ont des gros pieds poilus. Ils font des trucs avec. On va parler donc du multivers de Michael Moorcock, parce que justement il a développé tout un univers, des univers multiples parallèles, qui ont en commun la figure d'un champion éternel qui ne s'appelle pas Zlatan ni Nadal, un héros tiraillé entre deux forces antagonistes, la loi et le chaos. Et puis dans l'univers d'Elric, vous en doutez, le champion éternel c'est Elric. Alors c'est une sorte d'Anakin Skywalker junkie à l'eau de Javel, puisque le bonhomme a eu la malchance de naître albinos et souffreteux, de sorte qu'au début du récit, le jeune empereur aux yeux rouges est déjà un blasé de la vie, accro aux drogues magiques et qui se tringle sa cousine, mais bon, ça c'est juste pour le fun. Voilà, comme vous pouvez le constater, les années 70 ont foutu un sacré merdier dans la fantasy, et malheureusement pour Elric, son peuple de Beldibonéens n'est loin d'être de hippies, puisque c'est plutôt des sortes de elfes SM amateurs de black metal. Bref, de quoi déprimer cette âme sensible, ces héros romantiques, ce véritable héros romantique dont l'intérêt justement est d'être un anti-connard le barbant. Non, c'est Conan le Barbare. Bref, Eric, c'est loin d'être une banale histoire de fantasy, plutôt une quête identitaire au travers de laquelle se dessine donc la personnalité de son personnage principal, tourmenté et confronté à des choix cornéliens.
Mais Simon, tu nous feras une thèse sur ce livre plus tard, moi je voudrais que tu nous parles de la bande dessinée.
Ah oui, tiens, ça, j'ai complètement oublié. Donc, effectivement, cette série à l'imaginaire extrêmement riche était vraiment destinée à contaminer d'autres médiums, le premier étant le jeu de rôle. Il y a même eu un projet d'adaptation au cinéma, mais qui est complètement tombé à l'eau depuis. Et d'ailleurs, on peut le deviner facilement, il paraît vraiment difficile de rendre l'ampleur, la dimension spirituelle d'un roman qui vire parfois dans l'onirique sans le faire tomber dans l'espèce de fantasy kitsch comme on a pu le voir par exemple avec Aragon. Et encore, je pense qu'on pourra en reparler dans l'émission. Le choix s'est donc porté dès les années 70 sur la BD, ou en l'occurrence le comics, et il y a eu beaucoup d'adaptations outre-Atlantique, souvent signées de Moorcock lui-même. Et en France...
T'as failli mal le prononcer là.
Moorcock, ouais, c'est vraiment horrible. En France, par exemple, Philippe Druyer en a fait dans les années 60. Un univers qui correspondait tout à fait au sien. Donc l'adaptation de Glénat dont je vais parler ce soir, loin d'être une énième version d'Elric, elle a son intérêt, outre d'être française, d'avoir été reconnue par Moorcock lui-même comme étant la version la plus proche de sa vision originale, la saga même qu'il aurait voulu écrire, s'il avait pu. D'ailleurs, le maître signe une préface élogieuse au premier volume qui s'appelle Le Trône du Rubis et qui est sorti il y a un an. Par ailleurs, l'une des spécificités de cette série, c'est que loin du simple tandem scénariste-auteur, la série repose sur un schéma de super production, parce que je dirais, comparable à celui des comics. Il y a presque une dizaine de personnes, en effet, aux côtés du scénariste Julien Blondel, qui vient du jeu de rôle. On a trois dessinateurs, deux encreurs, et maintenant deux coloristes. Voilà, donc une équipe assez importante.
Et éternelle question, Simon, l'adaptation, c'est pareil ou c'est pas pareil ?
Bah, je dirais tout simplement, c'est impressionnant. On a vraiment beau être dans un format un peu comme celui de Kuten et Peters, d'une cinquantaine de pages.
Il aurait pu avoir un nom plus facile quand même.
Oui, bah, c'est comme Moorcock. Ouais. Voilà, cette réunion de talents est vraiment au service d'une adaptation très très intelligente de la série. Et c'était pas gagné car le cycle d'Eric compile des nouvelles et des romans qui s'enchassent, sont vraiment d'ordre. Ça crée ainsi des allers-retours entre le présent et le passé, puis le monde des cils et les différents mondes du multivers. Des quêtes unitaires qui peuvent pas vraiment se lire indépendamment des autres, mais il faille vraiment structurer dans un cycle narratif cohérent. Et les auteurs se sont concentrés sur un arc de 4 tomes pour commencer, qui pose le décor, les personnages, et va de la destruction de... qui parle de la destruction de l'île aux dragons par Elric lui-même. Et il faut reconnaître que le traitement de l'histoire est vraiment respectueux de l'œuvre originale. Il ajoute même des éléments, avec l'approbation de Moorcock toujours, qui enrichissent l'univers en se basant sur son essence. Côté illustration, le décorum est vraiment titanesque, ça donne une impression de majesté et de terreur vraiment sublime. La gamme chromatique par contre est très sombre, composée essentiellement de couleurs froides, allant du, au maximum, le rouge. L'esthétique choisie est un mélange du style européen, américain, asiatique. Les ambiances sont crépusculaires, voire infernales, ils soulignent vraiment les tourments des personnages, avec la juste dose de stylisation qu'il faut. Et puis, tous ces éléments combinés confèrent vraiment une dimension épique. Je ne sais pas si vous connaissez la série des Chroniques de la Lune Noire, qui sont une série de BD à la Seigneur des Anneaux. Et justement, entre le Seigneur des Anneaux, l'univers...
Ça parle de Hobbit ?
Ouais, ouais, sauf que là, il n'y a pas de Hobbit ici, il y a juste des bits, par contre.
Moi, je me suis arrêtée...
voilà, donc on est entre le Seigneur des Anneaux pour le côté épique, l'univers assez gore et obscène d'Hellraiser, donc le film d'horreur des années 80, et puis le côté un peu tragédie shakespearienne qu'on a dans Game of Thrones. Bref, cette adaptation est vraiment une excellente introduction à l'œuvre de Moorcock et au personnage d'Eric, parce que vraiment rares sont les BD à pouvoir retranscrire aussi fidèlement avec autant de souffle l'imaginaire d'un écrivain.
Mais quel hommage, mais quel éloge,
voilà,
Simon.
Pour une fois, c'est beau.
Oui, c'est magnifique. Est-ce que t'as un petit mot de la fin?
Oui, c'est vraiment un auteur qui a énormément influencé les illustrateurs. D'ailleurs, à la fin de chaque bouquin, on a une dizaine de pages avec des grands noms de la BD, pas seulement française, mais internationale. Et puis, il a influencé les musiciens. Alors, je ne sais pas si on a le temps de passer un tout petit extrait.
Non.
On n'a pas l'extrait. Bon, en fait, il a même travaillé avec un groupe de rock dans les années 70, qui s'appelle Hawkwind. Ils ont fait un album ensemble. Enfin,
désolé, voilà. Simon.
C'est un auteur qu'il faut lire par curiosité.
Merci beaucoup, Simon.
Bouquinerie, bouquiner,
bouquiner, bouquiner, bouquiner, bouquiner, bouquiner, bouquiner, bouquiner, bouquineuse,
bouquinerial,
bouquinerial,
bouquin, bouquin, bouquin,
bouquin,
bouquin, bouquin,
c'est la bouquinerie.
I
il est 20h25 sur Radio Campus Paris et la bouquinerie est encore ouverte pour un petit moment. Nous entamons la deuxième partie de cette émission avec Philippe Valette. Bonsoir.
Hello, hello.
Vous aviez un petit mot, enfin je vous entendais discuter à l'instant sur la BD de Simon, c'est ça ?
Oui, oui, je rebondissais en disant que ça me faisait penser un petit peu à certains ouvrages de Jodorowsky.
Oui, mais effectivement, il y a le côté psychanalytique pervers en moins.
Ouais.
Il y a moins de filles à poil et de trucs bizarres.
Vous lisez des trucs cool, dis donc. Philippe Valette, vous êtes le papa de Georges Clooney. C'est donc à vous que l'on doit cette bête rouge et molle qui a fait ses débuts sur le net et qui désormais poursuit ses aventures sur papier, car publié aux éditions Tapas. Est-ce qu'avant toute chose, vous pouvez nous raconter un peu la naissance du petit Georges dans votre tête, puis sur votre blog ?
Ouais, alors j'ai l'habitude de dire qu'elle est un peu hasardeuse, parce que c'était pas vraiment quelque chose que j'avais prémédité. Je vois les gens sourire là en ouvrant la bande dessinée.
L'ouverture est géniale. Meilleure ouverture du monde.
Il fallait que je fasse mieux que dans le premier, donc ouais, j'ai mis la sauce pour le deuxième. Ouais. Et en fait, je pense que c'est né surtout d'une frustration un peu que j'avais à l'époque. Moi, je travaille dans le film, et c'est toujours très très fastidieux dans le film de faire un projet. Il faut du budget, il faut du genre, il faut de la pré-production, il faut écrire un script, il faut le storyboarder, enfin il y a beaucoup beaucoup d'étapes avant d'arriver à avoir quelque chose de fini, et ça peut s'étaler sur plusieurs années. Donc j'ai pas mal de projets qui s'accumulent, qui prennent la poussière dans mes tiroirs, et je commençais à fantasmer, à me dire mais comment est-ce que je pourrais faire pour raconter une histoire facilement, rapidement surtout, un petit peu pour retrouver la spontanéité que j'avais avec mes potes quand on était gamins et qu'on faisait des courts-métrages avec notre caméscope. Et simplement, la bande dessinée, c'est venu un peu par hasard un jour où j'ai commencé à tester une petite boîte de feutre qui traînait chez moi.
Dessiner ce petit bonhomme. Un petit bonhomme griffonné dans un coin de table.
C'est exactement ce qui s'est passé. Le premier dessin de la première case de Georges Clooney 1, c'est un griffonnage dans un coin de page. Qui ensuite s'est étalé et qui est devenu la première planche. Ensuite, il y en a une deuxième. Et voilà.
Et alors, le parti pris du feutre et de la faute d'orthographe, c'est vraiment la marque de fabrique de votre BD. Avec aussi les néologismes chelous et l'omniprésence du domac. Et des insultes comme enculei. Qu'est-ce qui vous a inspiré finalement pour réunir tout ça dans une seule et même BD ?
C'est un peu comme je l'expliquais, quoi. C'est vraiment un truc hyper spontané. J'ai pas cherché à faire quelque chose de génial.
Y a pas des auteurs un peu, parce que enfin moi je trouve que ça ressemble à, c'est un peu un ovni quoi, ça ressemble à rien de connu. Mais y a peut-être quand même des gens qui vous ont inspiré.
Oui, je pense qu'au final quand je regarde le truc, ça me fait plus penser, je pense, aux séries que je regarde ou aux comédiens américains comme Louis C.K., des séries comme Eastbound and Down avec le personnage de Kenny Powers qui est très très poche de George Clooney au final, qui est un gros enculé, une grosse star déchue. Je sais pas si on peut dire ce mot
il
à la radio.
Il est mou et rouge aussi, vous pouvez dire ce
Il est très très mou et gros par contre, il est pas si rouge que ça. Donc voilà, je pense que mes inspirations elles sont multiples. En bande dessinée, je pense que je pourrais citer Joe Dali qui a fait une BD qui s'appelle Donjon Quest.
D'accord.
Qui est très très drôle, et je le soupçonne d'avoir commencé un peu comme moi aussi son premier tome de Donjon Quest par hasard, où son premier personnage c'est une sorte d'enfant ampoule qui s'emmerde chez lui et qui se demande mais qu'est-ce que je pourrais faire ce soir, il y en a marre, et qui claque la porte en insultant sa mère copieusement et qui part à l'aventure. Et là ça devient une sorte de récit un peu à la Seigneur des Anneaux, très inspiré du RPG aussi, du jeu vidéo et du jeu de plateau.
Et donc ça a commencé sur le net, et ensuite vous avez été édité donc pour la fin du tome 1 et un tome 2. Alors dans le tome dispo en ligne, on suit un peu en fait une seule intrigue, celle d'une tortue ninja tueuse poursuivie par George avec des petites interruptions par un gros singe biflophile qui apprend l'usage du doigt d'honneur. Alors c'est absurde mais pas trop compliqué à suivre. Par contre il y a un changement qui m'a vraiment marqué dans ce nouveau tome.
Ouais.
Mi-homme Michel, c'est qu'il y a des ellipses, vous passez d'une scène à l'autre, il y a des trois intrigues, on va dire, qui se croisent. Alors, est-ce que vous avez jugé qu'il fallait bosser de manière plus complexe la construction de l'intrigue du fait que vous alliez le publier ?
Ouais, entre autres. Je pense que déjà j'ai fait un 2 simplement parce que j'avais une idée qui me plaisait. Je pense pas qu'à la base l'univers de George Clooney nécessitait qu'il y ait une suite. Je l'avais fait une première fois un petit peu pour me laver, me lancer un petit peu pour voir si c'était possible d'écrire sans filet en improvisation. Donc ça c'était le 1 et ça aurait été bête de le refaire juste une deuxième fois. Le 2 je l'ai fait justement parce que j'avais envie de tester de structurer un peu plus la narration, d'avoir justement ces trois histoires là qui s'entremêlent de aussi construire la mise en page en fonction de la bande dessinée, papier. Mm-hmm, parce que maintenant, je savais que ça allait être édité, ce qui n'était pas le cas pour le premier bouquin.
Il y a un travail sur les cases et l'occupation.
C'est ça, la mise en page
chaque...
aussi. Même si j'ai voulu vraiment garder ma mise en page très storyboardesque, parce que j'aime pas trop moi dans la bande dessinée quand on a des choses trop graphiques et trop compliquées qui font certes des belles planches mais qui perdent la narration. Non, là c'est clair.
C'est toujours pas trop compliqué.
Mais oui, voilà, c'était l'envie de tester des nouvelles choses. Ouais. C'est pour ça qu'elle est un peu différente. Et j'avais essayé aussi de rester quand même dans l'univers.
Mais il y a un truc qui reste, c'est la faute d'orthographe. Ça bouge pas. Elle reste, mais elle est, et là
elle
je le dis au sens littéral du terme, elle est soulignée, cette faute d'orthographe.
Exactement,
particulièrement
elle
soulignée
est soulignée
dans ce thème.
Ouais, c'est ce qui m'avait intéressé aussi dans le deuxième, c'était un petit peu de faire quelque chose, une mise en abîme un peu de l'histoire et de l'univers de George Clooney, histoire que ça soit pas juste une redite du 2. J'avais envie de m'amuser avec mes personnages, mon univers, faire quelque chose d'un peu self-conscious et méta, comme disent les Américains.
C'est une méta bande dessinée.
Exactement.
Avec des méta fautes d'orthographe.
Oui.
Alors, est-ce que vous espérez, en fait, que cette BD, elle est une espèce de vertu, alors attention, moi aussi, je vais sortir des grands mots, contre-éducative. Oula. En gros, si certains médias ont comme but d'éduquer, d'instruire, est-ce que vous prétendez décoincer les gens, éclater les tabou et la scatophobie, mettre à l'honneur les cornets de pénis et la malbouffe, trop souvent dépréciés. Est-ce que c'est vraiment une cause pour laquelle vous battez ?
Non, je me sens pas vraiment militant avec cette bande dessinée, j'ai juste voulu m'amuser et amuser mes copains. Par contre, c'est vrai que j'ai un ami qui un jour m'a dit, moi ça m'a vraiment touché ce que t'as fait, parce que à l'école j'en ai vraiment chié, toutes ces contraintes tout le temps, l'orthographe, la grammaire, et c'est quelqu'un qui était très mauvais à la base, moi aussi je le suis d'ailleurs. Et
mais vous faites un peu exprès quand même parfois dans
oui je fais un petit peu exprès maintenant et je deviens meilleur en orthographe grâce à George Clooney maintenant, parce que voilà,
le comble.
Ouais, c'est un peu un comble. Et du coup il m'a dit, oui moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça, que ça puisse exister, ça puisse être publié, des choses qui soient si peu parfaites en tout cas, tu vois, quelque chose comme ça, que c'est possible quoi, de pas être parfait et d'exister et de plaire aussi. C'était rassurant pour lui. Je pense qu'il y a des gens effectivement qui pourront ressentir la même chose.
Bah oui, c'est, en plus, quand on lit, c'est vraiment drôle, on se sent un peu. On est forcé de rire et ça décoince complètement.
Ouais.
Le morceau qu'on entend maintenant, c'est Mission Prout de Joe Lamouk, morceau que
exact.
Vous avez voulu nous faire écouter pour illustrer cette interview. Pourquoi ce morceau, Philippe Valette ?
Bah, tout simplement parce qu'il me fait rire.
C'est une raison.
Mission Prout, donc il y a plein de petits bruits de prout. Et je pense qu'il a aussi été fait exactement comme j'ai fait cette BD. C'est quelque chose qui a été fait en 5 minutes par une bande de copains qui a eu envie de s'amuser et de faire rire leurs potes. Et voilà, c'est tout simplement décomplexé, sans prétention.
J'ai cru entendre quelque chose.
Vous êtes toujours à la bouquinerie de Radio Campus Paris et notre virgule est venue manger la fin de la chanson. Je suis désolée, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Valette, auteur de la BD. George Clooney, une question un peu plus éloignée, mais alors qu'aujourd'hui on remet en cause, en question plutôt, la liberté d'expression au cœur du débat, que la liberté d'expression inconditionnelle paraît pour certains problématique, tandis qu'au contraire, on se bat et on s'insurge pour la préserver. Vous, Philippe Valette, profanateur de la grammaire et de la bienséance, pensez-vous qu'on puisse rire de tout ?
C'est une question qui est vraiment compliquée. Je pense pas qu'on puisse y répondre aussi facilement avec un oui ou un non. Je pense qu'on peut rire de tout, pas forcément n'importe quand non plus.
Et pas avec tout le monde aussi.
Pas avec tout le monde, ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez des tabous quand même ?
Est-ce que j'ai des tabous ?
Un petit truc qui vous fait pas rire et vous ferez pas de blague dessus ou un truc...
Je sais que je me suis un peu contraint de pas faire de blagues racistes, par exemple. Dans Georges
Pennet. Ouais.
Parce que je sais, quand on fait ce genre de choses, on peut vite être taxé de raciste, même si on l'est pas du tout.
Tomber dans une polémique.
Voilà,
inutile.
Et c'est difficile, et j'avais pas envie justement de tomber dans de la polémique et du débat et devoir me justifier, blablabla. Donc il y a des choses que j'évite quand même, ouais.
Ouais, ouais, mais par contre, voilà, c'est. Il y a des blagues sur, entre guillemets, l'homosexualité. Mais ça.
Léger quand même.
C'est, ouais. Oui, ça reste hyper léger,
ouais,
c'est ça,
ça reste
vous
hyper
êtes
léger,
pas trop... mais c'est, enfin, éviter toute polémique quand même, ça mérite pas d'être pris trop au sérieux, genre.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Chroniqueur Simon et Nora, peut-être que avant qu'on parle de... On continue de parler avec Philippe Valette, mais on s'éloigne peut-être un peu de Georges. Est-ce que vous avez quelques petites questions à poser ?
Moi, je voulais juste faire remarquer effectivement sur la question, là, je pense que... Dans l'humour comme dans tout, des bites et des proutes, ça met tout le monde d'accord. Hein.
Voilà, au moins ça vexe personne.
Oui, sauf...
Voilà, je sais, c'est la remarque la plus pertinente.
Sauf ceux qui n'en ont pas, quoi. Bon, on est parti pour combien de tomes avec Georges Clooney ? Vous avez une idée ou c'est toujours...
Très honnêtement, je doute qu'il y ait un troisième et qu'il y ait une suite à Georges Clooney, en tout cas pour l'instant. Je pense que je pourrais y revenir un jour où j'aurais vraiment envie encore de me laver une seconde fois parce que j'aurais été encore frustré et énervé par plein de travaux qui m'auront pris des plombes. Et là, en ce moment, justement, j'ai envie de m'appliquer, j'ai envie de partir dans des trucs plus perso, ressortir justement tous les vieux projets dont je parlais tout à l'heure, et les mettre en place et les finaliser. Peut-être en passant par la bande dessinée, du coup.
Et du coup, l'animation...
L'animation, on me propose d'adapter Georges Clooney. Ah. Pas mal de fois, ouais. J'ai eu quelques rendez-vous avec des producteurs, des gens très intéressants qui ont plein de bonnes idées, tout ça, mais c'est simplement, personnellement, j'ai l'impression là de pas avoir l'énergie nécessaire pour me replonger dans cet univers-là. J'ai beaucoup d'autres envies, là. Et
Et Simon proposait de faire un CD musical Georges Clooney.
Alors ça, pourquoi pas, mais je suis pas musicien, donc il faudra que je délègue.
Là, ce qu'on a écouté tout à l'heure, moi, je pensais presque...
Tu veux dire une compile, c'est ça ?
Ouais,
c'est une compile.
C'est tellement dans l'esprit que, finalement, tu pourrais prendre des morceaux là, de Mission Prout, etc., et tu te fais la BD en écoutant. Ça.
Ou un lexique.
Ah oui, avec
aussi,
un livre audio, ouais.
Un lexique, parce qu'il y a quand même pas mal de...
Un petit dictionnaire, un petit lexique, ouais. On pourrait refaire un Becherel spécial Georges Clooney. Ouais.
Ah oui. Et une autre question, peut-être par rapport aux problématiques soulevées par
problématique.
Cette
heureusement qu'Anna est là pour relever le niveau.
Je fais exprès d'utiliser ces mots-là, un quota. On le voit dès la couverture, Michel, c'est un gros cyborg, ouais. Moitié humain encore.
C'est Robocop.
C'est construit Robocop. Par Google.
Exact.
Alors, est-ce qu'on lit dans ce tome une critique ou bien une réflexion sur le transhumanisme et le délire de l'humanité augmentée et comment ça part quand même sérieusement en freestyle, tout ça ?
On en parle, mais on va pas dire que c'est une réflexion ou une critique.
D'accord.
Je pense simplement que c'est des thèmes qui sont présents dans notre quotidien et donc qui sont directement implémentés dans Georges Clooney, parce que ça va pas plus loin que vraiment... les premières références qu'on a day to day sur Internet, ouais. Sur notre mur Facebook, quoi.
Parce que c'est quand même assez flippant de se dire non pas qu'un homme puisse être transformé en knacky, mais qu'on puisse ensuite le transformer en robot. C'est assez terrible.
C'est terrible, mais c'est vraiment intéressant aussi pour, par exemple, les amputés, les handicapés. Il y a des progrès absolument incroyables qui sont faits à ce niveau-là.
Et peut-être que dans le monde futur décrit par Skuten and Peters, on aura des... Les anciennes knacky transformées en cyborg humain.
Ils s'appelleront tous Michel. C'est ça. C'est pas difficile dans le milieu professionnel de chercher du boulot quand on est connu pour une BD dont le premier tome commence par une crotte dans un salon et le second par un frein pété en plein acte sexuel.
Ça m'a pas encore posé de problème, ça m'a plus ouvert des portes.
Ça a plus...
Pour l'instant, ouais. Bon, je travaille depuis un petit moment, du coup la bande dessinée c'est quelque chose qui est assez neuf pour moi. Donc j'ai toujours mon réseau et mon activité principale dans la réalisation et l'animation. Et non, au contraire, ça a été quelque chose qui m'a apporté pas mal de choses.
Ça vous met pas l'étiquette de clown
Non, ça va. Je pense que quand ils me rencontrent, en plus, ils voient que je suis pas forcément le personnage central de la bande dessinée. Je suis quelqu'un de différent.
Vous n'êtes pas rouge et mou.
Je ne suis pas si mou que ça. Hein.
Et qui porte le costume dans les incrustations
C'est un ami. Non, je tairai le nom.
Il
m'a demandé, on a signé un contrat. Ouais. Si je romps ça, je vais devoir payer beaucoup
mais
d'argent.
Oui, c'est vrai qu'il y a plein de produits dérivés. On peut acheter plein de trucs, des costumes.
Alors, pour l'instant, le seul officiel, c'est le costume.
D'accord.
Ouais. J'ai vu qu'il y avait un t-shirt qui avait été sorti par des gens sur Internet. C'était pas nous, non.
Donc, n'achetez pas ce t-shirt.
Non, non, mais si, allez-y, si ça vous aime, il n'y a aucun souci.
Mais le costume fera des ravages à Halloween.
Oui,
merci beaucoup, Philippe Ballet, d'être venu à la bouquinerie. Malheureusement, notre chroniqueur dessin, Yacine, n'est pas là pour discuter avec vous, mais on le retrouvera dans quelques minutes par téléphone, en direct d'Angoulême. Mais tout de suite, on s'immisce chez un autre acteur du monde du bouquin, avec Martin et sa chronique « Enlevez vos chaussures ». Il nous emmène chez Marie Cellier, auteure et présidente de la Société des gens de lettres.
Enlevez vos chaussures.
Parlez-leur de leur bibliothèque et vous verrez qu'ils se livrent. Enlevez vos chaussures. La chronique qui apprivoise les Parisiens grâce à leurs bouquins.
Je suis pas mécontent de rentrer.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Oui, entrez.
Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures?
Non, mais vous pouvez les essuyer sur le paillasson. Et puis me donner votre manteau.
C'est très gentil. C'est comment chez vous?
Ben, vous voyez, c'est comme une maison de campagne. Il est vraiment pas loin de Paris.
Habituellement, je présente les hôtes qui me reçoivent. Ouais. J'aimerais bien que vous le fassiez vous-même.
D'accord. Alors moi, je suis d'abord auteur. Je suis auteur jeunesse, essentiellement. J'ai publié une centaine de livres en jeunesse. Et puis, je suis aussi très investie dans la défense des auteurs. J'ai été présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse. J'ai été présidente du Conseil permanent des écrivains. Et actuellement, je suis présidente de la Société des gens de lettres.
Alors, ont été président de la Société des gens de lettres, si je ne me trompe pas, Victor Hugo.
Oui.
Ouais. Mmh. Honoré de Balzac, Émile Zola. Mmh. Qu'est-ce que ça fait de passer après eux?
Bah, c'est bien, ça change. Et surtout, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Je suis la troisième. Il y a eu la première, c'était Camille Marbeau, et la seconde, Régine Desforges. Et voilà, moi maintenant, donc non, je suis contente. C'est une équipe assez dynamique. Et j'ai une secrétaire générale, Carole Zalberg, qui est une femme aussi. Hein, voilà.
Bon, alors votre entrée, elle est très très belle, mais j'aimerais voir votre bibliothèque.
Et alors, ma bibliothèque, elle est explosée partout. Donc là, voilà, il y a des bouquins qui sont ici. Alors, en fait, c'est rangé par ordre alphabétique. Ça commence A, là, et puis ensuite, on va grimper à l'étage. Alors, c'est un peu comme entrer dans le ventre d'un être vivant. Hein, c'est très intime, finalement, une bibliothèque.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que la littérature jeunesse, c'est pas de la vraie littérature?
Bah, je suis très fâchée, hein, parce qu'on dit aussi que c'est un marchepied. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques. Il y a aussi des choses moches, mais je ne vois pas pourquoi, dès qu'on parle de littérature jeunesse, on nous juge à l'aune de ce qui est moins bien. En littérature générale aussi, il y a des choses... Donc il y a des beautés comme partout, et puis il y a des livres moyens, et puis il y a des livres franchement mauvais, mais il y a des splendeurs, hein, des splendeurs.
Hein. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tout à l'heure, vous me disiez... C'est intime, la bibliothèque. Qu'est-ce que votre bibliothèque dit de, je ne sais pas, de votre parcours ou de vous?
De temps en temps, je trouve que je suis un peu touche-à-tout. Je pense que j'ai une bibliothèque de touche-à-tout. Et en particulier, c'est une bibliothèque qui gagnerait à être désherbée. Hein. Un peu comme cette maison, il faudrait la désherber, il y a beaucoup de choses. Un petit peu comme mon cerveau aussi, il faudrait peut-être le désherber un petit peu.
Vous montrez votre livre préféré?
Ah, c'est mon livre préféré. Non, je n'ai pas de livre préféré.
Un livre rare peut-être?
Alors, je vais vous montrer un livre rare. Un tout petit livre. Alors, vous me suivez dans mon bureau.
On monte à l'étage.
Il fut un temps où il y avait des chambres d'enfants et puis les enfants sont partis. Donc, je me suis étalée. Donc, j'ai des bureaux un peu partout. Donc, là, c'est le pré-bureau. Mon bureau, il est là. C'est la petite pièce qui est derrière. Et je vais vous montrer mon petit livre rare que j'adore. Il est très petit. C'est donc un tirage limité à 104 exemplaires de Noël 1955. C'est un poème d'André Fresneau qui est illustré par Estève. Ça s'appelle « C'est à valoir ». C'est pour en avoir encore plus. C'est pour avaler, c'est pour la dent creuse. C'est pour avaliser notre bon vouloir. C'est pour l'amuser en attendant. Parce que nous sommes pauvres. Mais parce que demain, nous serons très comblés. Je crois bien, cela brille presque. C'est pour être à notre aise. C'est pour nous dégarnir du trop peu. C'est pour devenir à la hauteur. Peut-être c'est pour nous porter chance. Parce que les corps sont froids. Parce que les cœurs sont friands. Parce que les rats, sans façon, se glissent hors de nos bouteilles. Parce que les fromages de la vertu, à la fin, s'emberlificotent. On va s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Je n'étais pas du tout prévu, une seconde. Allô ? Ah, deux colis pour moi. Super, j'arrive.
Marie Cellier, j'ai été ravie de venir chez vous. Je vais vous faire une confidence, c'est la plus grande bibliothèque que j'ai jamais vue. Vraiment.
C'est vrai.
Et alors, j'ai une idée. On va dire au revoir à nos auditeurs et vous allez montrer. J'ai cru comprendre que cette année, vous avez reçu la Légion d'honneur.
Oui. Oui, mais alors, voilà. Alors, la Légion d'honneur, c'est un peu particulier. Il faut attendre qu'on me la remette. Ah. Or, bon, c'est Aurélie Filippetti qui m'avait proposé, donc je lui ai demandé, mais comme vous savez, elle est partie. Et donc, je suis restée en carafe. Donc, j'ai la Légion d'honneur sans l'avoir. Hein. Donc, j'ai demandé à Fleur Pellerin de me la remettre. Je pense que ça devrait se faire.
Bon, bah du coup, je vais partir en même temps que mes auditeurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Enlevez vos chaussures, c'est aussi sur radiocampusparis.org.
Bouquinerie.
Bouquineur.
Bouquineur.
Bonsoir, vous êtes toujours à la bouquinerie. On écoutait à l'instant la chronique de Martin qui était en immersion dans la bibliothèque de Marie Cellier, auteure et présidente de la Société de gens de lettres. Est-ce que Philippe Valette, chez vous, on enlève ses chaussures ?
Ça
pour
dépend.
Rentrer, ça dépend.
Ouais, sur le tapis, ouais.
Parce qu'elle s'appelle Enlever vos chaussures, la chronique de Martin. Je pose pas juste des questions bizarres gratuitement comme ça. Est-ce qu'on va vous croiser à Angoulême dans quelques jours, vous ?
Ouais, j'y serai samedi et dimanche.
Entendu. En tout cas, nous, notre chroniqueur dessin, il y est déjà. Parce qu'il faut que vous sachiez que Yacine est généralement présent à la radio une heure ou deux avant l'émission à chaque fois. Il est d'une ponctualité à toute épreuve. Et cette semaine, il a fait pire. Le festival d'Angoulême commence jeudi, nous sommes mardi. Mais Yacine est sur place, alors on essaye de l'appeler. Hello Yacine, tu nous entends ?
Allô, salut Anna, tu m'entends ? Salut tout le monde.
Salut
Yacine.
Allô ? Ouais, on t'entend, ouais. Alors, il y a Simon, il y a Enora, il y a Philippe Valette et on a tous envie de savoir s'il fait beau à Angoulême.
Ouais, pas mal. Écoute, tout à l'heure on était en voiture et il y avait un beau soleil couchant, très belle lumière, c'était chouette.
Ah, t'étais toute émue Yacine. Et bon, alors, super, merci Yacine, salut. Non, je rigole. Bon, en vrai, qu'est-ce que tu fais ?
Le bulletin météo d'Angoulême, voilà, c'est ça que tu vois.
Oui, c'est tout.
C'est important pour moi, faut que je sache si je ramène des collants ou pas.
Oui, des collants rouges, ouais,
des
c'est
collants
ça.
Rouges, ouais,
faut savoir s'il met son costume. Non, alors, en vrai, qu'est-ce que.
A priori, il va faire beau. Moi, j'aime bien quand il neige, Angoulême.
Bonne nouvelle.
On va peut-être pas trop en faire sur les météos non plus. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Qu'est-ce que tu trafiques à Angoulême, là, deux jours avant le début ?
Alors tu vois, moi je suis arrivé dimanche à Angoulême et je m'occupe d'une exposition je m'occupe d'une exposition Anna et Froga. Donc Anna et Froga, je t'explique qu'est-ce que c'est ?
Oui.
Donc c'est un livre pour enfants qui a été, une BD pour enfants exactement, qui donc est dessinée par Anouk Ricard. Donc Anouk Ricard, c'est... une dessinatrice qui est assez connue, notamment dans le milieu, parce que c'est un petit peu une des coqueluches du milieu. Quoi. Donc c'est une série qui est assez marrante. D'ailleurs, elle a commencé à faire de la BD avec cette série, il y a à peu près 10 ans. Et donc là, il y a une sorte de gros intégral de la série qui vient de sortir. Et pour c'était un peu cette intégrale. Il y a une exposition à Angoulême, donc je m'occupe de cette exposition avec Anouk parce que je la connais un peu. Voilà, et donc on a préparé une exposition. Enfin, j'espère qu'elle va être bien. On est encore en train de travailler dessus et ça va être une sorte de truc assez marrant, assez bordélique. En fait, le principe de l'exposition, c'est les personnages de l'exposition qui ont fait des œuvres et donc on va pouvoir apprécier leur talent assez nul. Enfin, ils ont tous fait des... Enfin, ils sont pas très bons, ils sont pas très doués et donc on expose leur production et on va mettre ça en scène. Et bon, il y a aussi des dessins extraits du livre, donc des pages de bande dessinée ou des illustrations faites par Anouk Sicard. Voilà, et donc je suis là pour ça. Et
ça a l'air hyper cool.
Pour la raison. Donc, si vous venez à Angoulême, vous pouvez tous venir voir l'expo à Naïf Roca. Donc, ça se passe dans le musée de la BD au quartier Jeunes Talents. Voilà.
C'est chouette.
Et la deuxième raison. Ouais, vas-y.
Ouais, et tu vois un peu ce qui se prépare là-bas, mais t'allais dire un deuxième truc, donc je pose mes questions après.
Ouais, en fait, ce que je voulais dire, ce qui se prépare là-bas, je trouve cette année, ce qui est intéressant à mon avis. Pas mal de choses autour de la création jeunesse, notamment un truc très connu qui est les Moumines. Et cette année, il y a donc une exposition au musée de la BD aussi consacrée aux Moumines. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de voir l'exposition. Normalement, le vernissage, c'est demain soir. Mais bon, les Moumines, ce serait dommage de rater ça. Donc, si vous venez à Angoulême, Anaïs Roca, les Moumines, c'est deux très très bonnes raisons d'aller au festival d'Angoulême, quoi.
Ok, c'est chouette. T'as des petits chouchous que t'as vachement envie d'aller voir pendant le festival ou des gens que tu sais présents et que nous recommandes. Oui, en dehors de Philippe Vallet, tu vas faire dédicacer tous tes vêtements.
Bah, moi, j'ai surtout hâte d'aller au off auquel je participe d'ailleurs. Mais le off, j'aime bien parce que c'est un petit peu tout ce qui fait de nouveau, tous les fanzines. De ce qui est un petit peu underground ou pas d'ailleurs, et il y a plein de choses intéressantes, tous les nouveaux auteurs, et ça c'est bien quoi. C'est un des endroits les plus excitants du festival parce que c'est vrai que dans le fanzine il se passe beaucoup de choses en ce moment quoi, et c'est aussi quelque chose de plus ouvert, c'est-à-dire on mélange bande dessinée avec dessin contemporain, avec plein d'approches du dessin qui me plaisent, on va dire.
Et on peut dire ouais, non, vas-y, je t'en prie. On s'appréhende moins bien par téléphone, Yacine. On se comprend mieux en face à face. Mais je voulais te demander...
Moi, je t'entends pas très très bien, donc...
Bon, je voulais te demander si le festival d'Angoulême, c'était ta grosse teuf de l'année. Genre, si c'était le moment que t'attendais encore plus fort que Noël.
Non, mais c'est très particulier parce que le festival d'Angoulême, pour moi, c'est comme la fin de l'année. Parce que tous les ans, je vais à Angoulême. Et tous les ans, l'année, elle se termine pas au jour de l'an, si tu veux, elle se termine à Angoulême. Parce que c'est comme si l'année pouvait que commencer après le festival. Et puis le rapport au festival, il est bizarre, quoi. C'est une sorte de rapport amour-haine, parce qu'il y a des trucs que tu adores au festival. Tu rencontres tout le temps dans la rue, tu croises tout le temps dans la rue des gens que tu aimes bien, que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou que tu croises par hasard. Et puis à côté de ça, il y a la machinerie du festival, l'institution. Peut-être tu cautionnes pas forcément tous les choix, c'est un peu consensuel à bien des égards. Et du coup, il y a tout ça qui se mélange. Donc le festival Angoulême, je suis quand même toujours content d'y aller, même si je serais très critique, quoi qu'il arrive.
Mais t'es vraiment plein de poésie ce soir, Yacine. Moi, ça me sidère. Ouais.
C'est de la mélancolie.
Allô ?
Oui, on t'entend. Tu nous entends peut-être pas très bien. C'est les joies du phoneur. Bah, du coup, on va peut-être se quitter si on s'entend plus. Mais t'as un petit coucou à nous dire avant de partir. À Philippe Vallet, peut-être un petit mot. Toi, notre chroniqueur de sang.
J'aime bien ce qu'il fait. En tout cas, j'ai bien aimé son premier bouquin. J'ai pas lu le deuxième, mais j'ai hâte de le lire.
J'espère que tous nos auditeurs...
Tu me les prêteras.
Exact.
Tu passeras dire coucou. J'espère que tous les auditeurs ont aussi très envie de le lire. Bah, des bisous, Yacine. Tout le monde dit salut. Amuse-toi bien.
Salut, Yacine.
Attrape pas froid. Ça dit quoi ? Bisous ? Oui, bah, bisous. Salut.
Bouquinerie. Bouquiner.
Bouquinaire. Bouquinal.
Bouquinaire. Bouquinal. Bouquineux. Bouquineuse. Bouquinarial. Bouquinairement. Bouquinant. Bouquin.
Bouquinal.
La bouquinerie va tout bientôt fermer ses portes. Mais avant ça, on voudrait remercier fort fort Yacine qui, tout là-bas, campe à Angoulême. Et aussi Martin pour sa chronique « Enlevez vos chaussures ». Et Simon, on remercie aussi Enora pour sa bénévolence.
Merci à vous.
Parce que, alors voilà, bénévolence est un néologisme inspiré du jargon de Georges Clooney. C'est vrai que vous mettez plein de anses comme ça vient d'où?
Des anses dans tous les 100 sens, ouais.
Dans tous les 100
sens. Ça vient de, je pense, les conneries qu'on raconte avec nos potes, enfin avec mes potes.
Ouais.
On parle un peu comme ça en vrai.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Ça devient compliqué des fois.
Trop de complicances dans vos...
Trop de complicances, ouais.
Ok, d'accord. Non, mais c'est... Ça se trouve, ça rentrerait dans la langue courante.
J'espère. C'est pour ça, que je bosse à fond avec les bouquins. Là, je veux que ça rentre. C'est comme la chèvre aussi. J'aimerais que les gens s'insultent de chèvre tous les jours.
Ça
se traite de chèvre en tous les sens dans la BD.
Bah, mais c'est parce qu'il y en a une.
Il y a une espèce... C'est un mouton. Attention. Ah. Enfin, il est croisé.
Oh, je suis désolée.
Il est croisé. Ouais. Il est croisé. Ça va. Ouais. Il a du sang.
Je
du sang de chèvre.
Pas vous blesser.
Il n'y a pas de souci.
C'est un mouton. Donc, Georges Clooney, on retrouve le travail de Philippe Valette sur georgesclooney.blogspot.com pour la BD Georges Clooney.
Exact.
Mais aussi, peut-être d'autres projets qu'on peut retrouver ailleurs.
Oui, bah, j'ai un blog perso où je poste, du coup, c'est beaucoup de travail professionnel, pas hyper personnel, des publicités, des clips, mais bon, c'est...
On si peut vous, avoir si son vous petit intéresse, nom. Vous
pouvez... ouais, c'est Philippe Valette, tu tapes ça sur Google... ça pop. En premier, c'est un blogspot aussi.
Ok, parfait. Bah sinon, il y a les BD édités, Georges Clooney, Fnac, Gibert, Librairie, c'est encore
partout.
Mieux. Parce qu'il faut soutenir les libraires et tout ça. Ou bien, vous pouvez aller, si vous voulez le retrouver, lui dire bonjour à Angoulême, samedi ou dimanche.
Tout à fait.
On fait un grand merci à Lorna pour la réalisation.
Coucou Lorna.
Merci.
Alors Lorna, tu as fait... Attends, je la lance. Parce que Lorna, tu as fait un phoneur en direct ce soir et peu parmi nous ont cru que nous y parviendrions. C'est un grand moment pour la bouquinerie. Est-ce qu'on peut pousser ton audace ce soir? Est-ce qu'on peut entendre le son de ta voix?
Bonjour tout le monde.
Coucou Lorna. Voilà, c'est trop bien. Non mais décidément c'est trop cool. Allez,
6 mois quoi pour ça.
Ouais, 6 mois et on aurait entendu la voix de Lorna en direct. Bonne soirée à tous, à dans 2 semaines. Mais restez à l'écoute parce que tout de suite c'est le BRTZ Radio Show. Salut monsieur BRTZ.
Salut,
Radio Show.
Comment ça va?
Bah ça va très bien, on s'est bien amusé ce soir.
Ouais, j'ai entendu ça, ouais.
Un petit débrief du programme.
Ce soir, on va recevoir Samir Hamad, le MC Montpelliérain, donc a sorti un super album qui s'appelle Perdant Magnifique. Et justement, on va le joindre par téléphone. Donc, je ne sais pas si ça va se passer aussi bien que vous ou pas.
Prends ton propre téléphone.
On va se démerder.
Bon, bah voilà, je vous l'avais dit, ça va être trop cool. Alors...
Et bravo, Fibette, c'est vachement cool, Georges Clooney.
A tout de suite avec le BRTZ, quittez pas.
Merci, à plus. Ciao.